consonance. De la page à la voix.
Porte-plume.
Lecture libre. Consonance. Victor Segalène, un rêve de film. Un texte de Stéphane Padovani sur une lecture de Thibaut Dubreuil et l'auteur. Note d'intention. Un cinéaste dont on ne saura rien, sinon qu'il est le narrateur, rêve à un film sur l'écrivain breton Victor Segalène. Peu importe, finalement, que le tournage ait lieu ou non, que le film se concrétise ou non. Seul compte ce voyage dans l'imaginaire d'un projet autour d'un artiste explorateur, à découvrir ou à redécouvrir. Seul compte la poésie. Qui peut naître d'un tel parcours, l'énigme qu'il recèle, la beauté qui ruisselle sous les pas de Segalène.
Une femme marche, vue de dos, dans la forêt de Huelguat. On la suit à une dizaine de mètres, parmi le vert profond des mousses, les rochers bossus comme des bêtes endormies, préhistoriques, les hêtres et les chênes couverts de glands. On ne veut pas la déranger, pas encore. Et puis, il est difficile de s'approcher de quelqu'un qu'on ne connaît pas, que l'on découvre lentement. Il faut se laisser du temps pour apprivoiser un personnage, le laisser entrer en soi et y entrer soi-même, comme dans une forêt. La voix de cette femme accompagne sa marche. Elle dit « Mes amis m'ont conseillé de ne pas revenir ici, que je vais attiser ma peine, ma solitude. » Elles n'ont pas besoin d'être attisées, elles restent au plus haut. Mais elle me partage désormais avec autre chose, une sorte de paix paradoxale, un sentiment de plénitude. En revenant parmi ces arbres et cette architecture de roche qui ressemble à un temple vivant, ce n'est pas le corps inanimé de Victor que je revois, en tenue d'officier de marine, un exemplaire de Hamlet près de lui, taché de sang, le garrot inutile à sa jambe. Mais les derniers moments de partage, d'amour incandescent que nous avons eu, et toute cette vie, dont chaque année m'a semblé compter double ou triple, tant elles ont été pleines. Je reviens, je respire, tout est signe ici, toute la forêt me parle, et je me souviens. Cette histoire pourrait ne pas commencer par la fin, par la disparition de Victor Segalène, le retour de son épouse Yvonne dans la forêt de Huelguat, par le schéma classique du récit rétrospectif, même s'il a sa beauté souvent. « J'avais une ferme en Afrique », murmure la voix éraillée de Karen Blixen, Meryl Streep dans Out of Africa, et tout de suite nous partons. Yvonne, nous pourrons la retrouver plus loin. C'est une femme essentielle, lumineuse. Elle n'est pas une Pénélope attendant le retour du héros, elle a sa part de l'aventure et un chemin qui lui est propre. L'homme dont il va être question ici est jeune, en un jeune siècle. Il a 25 ans, à l'heure où l'on décide de faire route avec lui, route marine, route maritime d'abord. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous l'ont oublié, s'ils l'ont jamais connu. Mais qu'importe, puisqu'il a déjà été oublié maintes fois. L'oubli ne l'effraie pas au moment où il monte à bord de la Durance. La Durance, c'est le nom de l'aviso transport de la marine française qui sillonnait les mers entre deux siècles, le 19e et le 20e, avec 8 officiers et 115 hommes, armés de quelques pièces de défense. La Durance est aussi le nom d'une rivière en Provence, l'un des principaux affluents du Rhône. La Durance, c'est surtout le nom par lequel tout commencerait dans mon scénario. Celui où s'embarquent les mots pour le voyage. Il le faut solide et sonore, ce nom est dur et endurant. Il doit aller loin. Il doit porter ce qu'un poète nommait le dur désir de durer. Car tout est là, dans la capacité à durer, à endurer. Il faut que le suffixe « ens » suggère l'étirement du temps comme celui de l'espace, mais pas tout à fait l'errance, puisqu'on a décidé de suivre un voyageur qui se fixait des buts, qui prévoyait des étapes, s'équipait, tout prêt pourtant à se laisser saisir par l'inconnu, le divers. Et déjà, le commandant de bord le fait demander. Ségalène le décrit ainsi dans une lettre. « Très aimable, vieillot, mais remuant. » On imagine facilement un petit homme chauve, brassant des papiers et du vent, qui propose du thé et s'inquiète de l'état de son nouvel officier médecin, dont il sait qu'il a séjourné à l'hôpital de San Francisco avant de rejoindre son poste à Tahiti, atteint d'une fièvre typhoïde sévère. Le commandant a consulté sa fiche de service, reçu premier au concours et second à l'école de santé navale de Bordeaux. On le décrit efficace, volontaire, dévoué, esprit indépendant, teinté d'ironie, à surveiller peut-être. Le commandant a devant lui un homme plutôt frêle, nerveux, myope de surcroît. Le visage gracieux, orné d'une moustache, indispensable en 1903. Ségalène a encore l'allure d'un étudiant studieux, à peine sorti des bancs de l'université. Mais dès les premières paroles, les premiers gestes observés, une folle énergie se dégage, une force qui impressionne. Nous saurons vite à quoi nous en tenir, pense le commandant, puisque les îles Tuamotu viennent d'essuyer un terrible cyclone. Il s'agit de nous porter très vite à leur secours, annonce-t-il. Je verrai comment filmer cela. Alternance de plans rapprochés, c'est banal. Cela fonctionne bien, dans la sobriété. Victor sort de la cabine après salut réglementaire. Il se réjouit de partir en mission. En repassant sur le pont bâbord, il scrute l'océan, dos à la coque et au port de Papeete. Il n'aime pas trop sa couleur aujourd'hui, un peu malsaine, laiteuse, mais l'impureté des mers ne l'effraie pas, ni celle des êtres. Tout au contraire. Être médecin, pour lui, c'est plonger les yeux et les mains dans tout ce que nos corps sécrètent, dans toutes nos altérations, nos imperfections. C'est faire mieux que les connaître, les apprivoiser, s'y attacher, s'y retrouver soi-même. Victor applique aussi ce principe aux livres qu'il lit, à ceux que déjà il rêve d'écrire. La main d'un camarade se pose sur son épaule. « Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, le vieux ?» Voilà, c'est une possibilité. Des réminiscences d'océan et de fleuves où glisse une caméra, un récit. Et tout s'ébranle, tangue, enivre. Des films vus à l'adolescence traversent ce récit en archipel, cette matière première d'un scénario qui n'est qu'un champ perdu de plus. Souvenir de la canonnière du Yangtze, la solitude de Jake Holman, sa mélancolie, sous le flegme charismatique de Steve McQueen. Le regard bleuté de Candice Bergen et son innocence. Richard Attenborough, qui nage dans les eaux glacées pour mourir dans les bras de celle qu'il aime. Le spectre du Vietnam, déjà, dans cette espèce de guerre larvée avec les nationalistes chinois. L'obsession héroïque de Richard Crenna. Et ce fleuve, qui prend toute la largeur de l'écran, tout l'espace de mon imaginaire, qui porte la charge du temps. Ces galènes n'aiment pas vraiment naviguer, pas particulièrement la mer. Et pourtant, c'est vers la marine qu'ils se tournent, étrangement. Plus tard, ce sont les fleuves qui sauront le mieux l'emporter. En homme de son temps et de son pays, de son statut, Victor regarde d'abord les Polynésiens à travers son uniforme blanc, ses galons, ses lunettes rondes. Mais très vite, il les soigne, pose ses mains sur leur corps, et il voit autre chose. Il entend autre chose tout au fond de leur voix, car il a l'oreille musicale, c'est le moins qu'on puisse dire, le goût des sons, des harmonies, des disharmonies. On perçoit des bruits flottants dans la brise, chants de la mer sur l'anneau de corail et chants de tahitienne le long de l'eau, écrit-il. L'écoute, d'abord superficielle, se creuse, s'affine, entre dans la langue, entre dans la réalité, dans l'histoire de ce peuple, entre dans son rêve. Il entend l'effacement de cette langue, son destin de bois rongé, son pourrissement, ses derniers feux jetés sur la côte. La première fois qu'il a parlé de la Polynésie avec Yvonne, c'était de biais, indirectement, à propos de Gauguin. Victor disait que le peintre l'avait illuminé. Yvonne, Mavonne, dans presque toutes ses lettres, le possessif n'exprimant pas la possessivité, à mon sens, mais plutôt le son en miroir de l'âme. Le Y est l'élément disparu, ou plutôt le caché, l'inconnu du couple. Reste la rime du prénom, qui m'évoque le mouvement, l'onomatopée de la vitesse. La femme de Ségalène est là, tout entière dans ce tendre nom, Mavonne. Et tout entière ramenée au cœur de ses cheveux en chignon. Le vent chuchote entre les feuilles, tandis qu'elle quitte la forêt de Huelguat. Elle n'est pas allée avec Victor en Polynésie, elle ne le connaît pas encore à l'époque, tandis qu'il se tient sur le pont de la Durance. Lui a-t-il raconté la mission après le typhon? A-t-il évoqué de là-bas l'éveil des sens, le sexe libéré, les soins prodigués ici et là, la naissance du livre, les immémoriaux, et l'arrivée devant la case de Gauguin à Ivaoa? À Ivaoa, là où il mourut, chante Gérard Manset. Et lors de leur corps partout accompagne, quand glisse leur pagne couleur des montagnes, du sable et de l'eau. Oui, il pourrait y avoir cette chanson, tandis que filmés de l'autre côté d'une vitre, d'une fenêtre donnant sur leur chambre, Yvonne et Victor sont nus à Brest. Puis de nouveau un plan sur Yvonne, seule revenant de la forêt, d'un passé que l'on n'a pas connu, pas partagé avec celui qu'on aime, d'une vie où nous étions hors champ, pas même à l'horizon d'attente. Quelle mémoire peut nous parvenir? La mémoire finit toujours par déborder ce qui la met en mouvement. Je suis au bord de l'Atlantique, à Séné dans le Morbihan, et la Durance vogue sur le temps. Le 14 janvier 1878, alors qu'il respire depuis une heure à peine, les parents se décident pour le prénom Victor. C'est un prénom courant au 19e siècle. Le phare Hugo n'est pas éteint. Il continue de balayer l'océan et ce prénom sonne comme une victoire. Victor, c'est aussi le prénom d'un enfant sauvage trouvé en Aveyron, dont François Truffaut plus tard fera le héros d'un film magnifique. Sauvage, Victor le sera lui aussi à sa façon. Au collège des Jésuites, à Brest, il se sentait déjà des envies de mordre, de crier, de monter aux arbres de la cour, quand le dressage quotidien se faisait plus oppressant. Plus tard, les randonnées à vélo avec Émile Mignard, son plus proche ami, le connectent cœur battant avec la sauvagerie du Finistère. Il en saisit l'âpreté, l'exigence. Cette terre ne se laisse pas conquérir. Et voilà peut-être ce qu'il décide pour lui-même, entre deux coups de pédale, de bivouac près d'une rivière, de fou rire avec Émile. Lui non plus ne se laissera jamais conquérir. La bicyclette, plus qu'un véhicule, un véritable moteur d'évasion. La conscience de l'espace autour de soi, ouvert dans son cas, fermé pour le dernier empereur de Bertolucci dans la cité interdite. Pauvre petit empereur sans pouvoir, dépossédé de son histoire. Il pédale dans le film, frénétiquement, dans les allées désertes de la cité. Tombeau ouvert, nécropole encore habitée par une armée de fantômes où Victor, séjournant à Pékin, rêvera plus tard de s'introduire. Vais-je pour autant filmer son enfance ? Je ne vois pas un énième biopic à vendre aux chaînes françaises ou aux plateformes anglo-saxonnes, la vie édifiante d'un grand écrivain voyageur, tardivement redécouvert, écrivain maudit, selon... Bon, non. Non pas que l'enfance soit inintéressante en soi, mais il a lui-même dit sa méfiance envers ce genre de récit. Je le cite. « Je naquis, le reste en découle. » Façon lapidaire de balayer cette tentation. Par ailleurs, rien n'est moins spectaculaire qu'un homme ou une femme en train d'écrire. La peinture, la sculpture sont autrement cinégéniques, sans parler de la danse. Comment faire alors, sans filmer une silhouette assise à une table ? Penser qu'un écrivain est une terre de langage, de désir, d'imaginaire, dont le réel est parfois frontalier ? Parfois il y a la paix entre ces terres, des échanges, des chemins ouverts, toute forme de commerce. Parfois il y a la guerre. On cherche à s'envahir, à se détruire, tout au moins à prendre l'ascendant. Il faudra filmer l'espace comme une projection du personnage. Tandis que Ségalène entend changer son rapport au monde, celui dont il a hérité, il rejette l'exotisme d'un Pierre Loti, la carte postale. Je lis assidûment les lettres de Ségalène récemment rééditées. Elles sont nombreuses, au nombre de 1530. Incroyable. Que restera-t-il plus tard des auteurs d'aujourd'hui ? Des mails ? Des SMS ? C'est à pleurer. Toute idée de correspondance me semble morte aujourd'hui. Mais je reviens à Yvonne, nue près de son époux dans la chambre à Brest. Les gouttes de pluie de l'autre côté de la vitre brouillent le visage des amants. Je les vois. Puis Yvonne est enfant. La fillette a empoigné la crinière d'un petit poney. Elle le chevauche en riant aux éclats. Il part au trot dans la prairie. La caméra les laisse s'éloigner. De Chine, Victor écrira. On ne voit que sa main qui occupera tout le plan. Il dit vouloir s'enfoncer en terrain neuf, là où les limaces littéraires n'ont pas laissé leur traîne et le goût fade de leur bave. Il cherche, encore et toujours, une voie, et j'en cherche une aussi, vers ce personnage qui m'attire depuis longtemps à la mesure de mon incompréhension de tout ce qui me paraît de lui totalement autre à moi-même. Mais il y a une constante, quelque chose en tout cas dans laquelle nous pouvons être nombreux à nous reconnaître, au-delà d'une œuvre peut-être difficile. C'est son désir permanent d'émancipation, de liberté. Ce cycle de naissance ininterrompue qu'il nous propose jusqu'à la fin, dans cette forêt bretonne. L'histoire de cet homme, inactuel, peut rejoindre notre présent par des détours dans le temps et l'espace. La peau fragile du monde est attaquée de toutes parts. Et c'était déjà le cas quand vivait Victor Ségalène. Première guerre mondiale, épidémie, révolution sanglante, il arrive quelquefois que des gens, artistes ou pas, nous hissent un peu au-dessus du marasme, nous entraînent loin des évidences de nos sens repus, quittant l'obsession de l'instant, du direct, du futur aussi. Nous portons avec eux la charge du temps. Nous portons le chant du monde comme des sherpas. Hommes et femmes de bas, nous éprouvons avec eux une forme d'insatisfaction qui pousse à avancer. Tout à la fois dans l'énergie joyeuse, cette joie dans les muscles, dans les yeux, dans la pensée, dans le rêve, écrivait-il, et la mélancolie, l'empathie sensorielle avec le dehors. Revenant de ma promenade matinale, je consigne cela en vrac comme il aimait le faire avant de tout réorganiser rigoureusement. Des plans comme des stèles. Placer la lumière au cœur de l'image, émanant d'elle, non comme un éclairage hors champ. Poser des plans comme des bornes aux quatre points cardinaux du film, à savoir la découverte, la terre, la pierre, le danger. Exprimer l'autre qu'est Victor Segalen sans le réduire au même, comme un cinéaste avec ses acteurs. Comment filmer l'inconnaissable? Traverser des cours, des arches, des ponts, tenter les chemins bifurqués, m'essouffler aux marches, aux rampes, aux escalades. Être un stalker, oui, comme le personnage éponyme du film de Tarkovsky, celui qui se trouve en se perdant, qui guide en égarant, qui a foi en ce qu'il ne possède pas, qui résiste en s'abandonnant, qui est invincible, parce que l'échec ne le fait jamais renoncer. Regardez de plus près les photos prises en Chine de et par Segalen, notamment lors de l'expédition de 1914. Il y a des sculptures, à la fois vivantes et spectrales, comme nos souvenirs. Cette effigie de mandarin, par exemple, prise dans les hautes herbes, que le temps semble avoir pétrifiées. La vente aux enchères dans la case de Gauguin. Filmez cela comme une fouille d'archéologues, déjà bien avant la Chine. Segalen est une mosaïque. Tous ses désirs le constituent, ce qui n'exclut ni la rigueur de l'écriture et des recherches menées dans les domaines les plus variés, ni la précision des relevés, ni le soin accordé à tout ce qu'il réalise. Mais sous cette trame, ce patchwork de projets incessants, de curiosités, de recherches, de voyages, cette quête de formes nouvelles, court en palimpseste une ligne, presque droite, où se reformule sans cesse la même question. Qui suis-je? C'est cette question qu'il faut habiter pour l'acteur qui va l'incarner. Filmant de très près un tableau de Gauguin, cavalier sur la plage, puis plusieurs photos de Segalen sur les chemins de Chine en 1909, en travelling, l'acteur, oui, je le vois aux portes du Tibet, à cheval, une voix rappelant que la beauté du monde est toujours conquise sur son envers monstrueux, tandis que les bombes de Verdun fracassent soudain la bande-son. Et un insert sur les trois enfants, Yvon, Annie et Ronan, assis sur des marches d'escalier en mai 1914, puis peut-être un plan large de Victor dans son ascension vers le tombeau de Wu Qiuping, général chinois mort en 117 avant Jésus-Christ, gardé par un magnifique cheval de pierre. Là est le passage du temps, littéralement. Dernière partie du film, Brest. J'anticipe. Il a 40 ans et des milliers de kilomètres à son actif. Seulement 3 livres publiés. Peu importe. Il écrit. Jamais il n'a voulu devenir un littérateur professionnel. Peut-être filmer Yvonne, face caméra, donnant des informations comme si elle disait un poème ou une lettre d'amour. Les allers-retours, Brest, Paris, un dernier départ en Chine via l'Angleterre, Hanoï et Singapour. Retour difficile, épuisement. Il soigne la grippe espagnole à l'hôpital maritime, comme il avait soigné la peste en Mandchourie, avec la même abnégation et la même désinvolture quant à son sort, la même humilité tranquille, presque ironique. possible scène avec un jeune soldat alité, parmi d'autres, qui a vu se trouer la peau du monde en même temps que la sienne et celle de ses camarades. D'Hélène Hilper, amie d'enfance de sa femme, devenue veuve avec 4 enfants, de son amour tardif et très probablement platonique avec Victor. Il faudra montrer quelque chose qui soit aux antipodes du vaudeville, de l'adultère étalé à longueur de film, du bovarisme masculin. Cet amour à peine approché, que déjà manqué, perdu, retrouvé, sous sa forme la plus épurée dans l'écriture, comme toutes les civilisations qu'il aura approchées, tous les artistes qu'il aura manqué de peu, d'un cheveu parfois, comme Gauguin. Mais le film ne se finira pas, pas plus qu'il n'aura commencé. La caméra frôle simplement la surface du Pacifique, une main de peintre passe sur la toile, encore humide. Yvonne sort lentement de la forêt, comme dans un rêve. Elle dit en voix off, tout en continuant de marcher sur les feuilles et la mousse. Pour voir le bateau, les filles s'étant revêtues, marchaient vers la mer jusqu'à piétiner le corail. Le soir tombait, des lumières jaillirent de la coque noire. D'autres luisaient sur le pont. Un bruit de joie et de rire parvint, comme un appel jusqu'au rivage. Plan léger sur son visage qui sourit, ses yeux lumineux.